Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage avec Eva Rock. On est ravis de vous retrouver en studio. Même si le déconfinement est progressif, ça fait quand même du bien de pouvoir retrouver une certaine liberté de mouvement. Alors, bien sûr, hein, certains lieux sont encore fermés, les restaurants, les bars et les salles de sport. J'aurais d'ailleurs une pensée pour tous les bodybuilders qui voient leurs muscles rétrécir jour après jour. Une pensée évidemment pour Sylvester Stallone qui doit vivre des jours très difficiles.
C'est de plus en plus compliqué de faire du sport correctement. Ça fait un mois que je vais plus pousser à la salle et je suis en pleine perte de masse, tu comprends?
Mais tu n'es pas le seul! Est-ce que tu penses à Olivier Mine?
Mais bordel, Olivier peut s'entraîner tout le temps! Toutes les salles sont dispo à Fort Boyard!
Non mais tu crois qu'il habite à Fort Boyard? Et avec le père Fouras, ils font des lancers de nains aussi? T'es trop con!
C'est pas faux!
Alors, si on ne peut plus muscler nos biceps à la salle, autant muscler nos neurones avec nos deux ultimes concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. Deux frères ennemis qui ne se font jamais aucun cadeau. Si par malchance, l'un a un problème technique et peine à se connecter, l'autre ne proposera jamais de l'attendre, comme jeudi dernier. Il nous manque quelqu'un, mais on s'en fout.
Ouais. Qui ça? Moi, je suis là.
Eh oui, on commence avec ça, on s'en fout. Hein. Ce rire sardonique, c'est celui de notre expert innovation, Anissé Mbida. Bonjour, Anissé.
Bonjour, Mathieu. Je suis ravi de vous retrouver en studio en vrai.
Ah, mais nous aussi.
Oui, vous allez enfin pouvoir régler vos comptes en vrai, tous les deux. Alors aujourd'hui, Anissé, un sujet aussi vicieux que vous. Vous nous parlez du nouveau smartphone OnePlus 8 Pro, dont une des caractéristiques fait polémique.
Oui, et il a une vision X. Vision X. Vision X. Vous êtes une vision à rayon X, un peu comme Superman. C'est-à-dire qu'on peut voir à travers les objets, mais surtout là où ça crée la polémique, c'est qu'il est capable de voir à travers les vêtements. Et on va essayer de décrypter tout ça.
J'y crois pas une seule seconde à cette histoire.
Eva à la barre aux lèvres.
J'ai des preuves.
Oh là 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 là. J'espère que vous avez bien joli soutien-gorge, Eva. Face à vous, Anissé, pour
attendez,
vous situer.
Je regarde. Ouais, oh. C'est pas mal, ça va.
Pour vous citer un peu le bonhomme, Anissé, je dirais simplement qu'il est aussi doué en économie qu'il est bilingue français-espagnol. Démonstration.
Si yo hablo muy bien español, alors, y voy a gagnar, eh?
Bonjour Axel de Tarlé.
Bah c'est pas mal, non?
Muy bien.
Non, c'est pas mal. Je sais pas. Ouais, non, c'est pas bien.
C'est pas mal, je suis pas sûr que ce soit un peu comme pas mal sur l'expression. si vous voulez être très gentil, on peut dire que c'est bien. Aujourd'hui, Axel, vous allez nous expliquer comment, alors que le bilan mondial frise les 300 000 morts, alors qu'on entre dans la pire récession depuis la crise de 29, la bourse américaine, en tout cas, vient de bondir de 30%.
Exactement, on ne fait que se lamenter sur les 30 millions de chômeurs aux États-Unis, mais on oublie les actionnaires, qui eux s'enrichissent.
Ah oui, vous avez
plus de 26% à Wall Street depuis un mois.
Ah oui, ben oui. Pensons à eux.
Voilà.
Mais comment c'est. Alors, bon, vous êtes.
C'est le teasing.
C'est tellement intéressant que je le devance. Voilà, c'est l'objet de votre chronique. Alors, la bourse qui jubile pendant que l'économie réelle se casse la gueule, ou bien le téléphone qui permet de voir sous les jupes des filles, quel sujet aura votre préférence? Réponse juste avant 18h, mais tout de suite là, qu'est-ce qui se passe, Eva?
Eh bien, avec Sébastien Bordonnave, on a profité du week-end pour chercher des moments joyeux, insolites, rieurs sur les réseaux sociaux pour vous concocter le mix quotidien. Alors, au programme du jour, Mathieu Chédid qui reprend Daniel Balavoine avec un petit tambourin calé autour de sa cheville, l'humoriste Maxime Gasteuil qui parle de nouvelles technologies, Samy Waladito qui est un jeune youtubeur plein de talent qui est inspiré par le déconfinement, et on va commencer tout de suite par un sujet aux 20h de France 2, une visioconférence qui tourne mal, mais très très mal.
Ils étaient 3700 dans le monde entier à avoir reçu une invitation par visioconférence Zoom de la part de leur entreprise.
Aujourd'hui sera votre dernier jour de travail pour Uber.
En 3 minutes, cette femme, la directrice du département clientèle d'Uber, leur annonce qu'ils sont tous licenciés sur le champ. La mesure concerne des employés administratifs, pas des chauffeurs.
Je sais que c'est extrêmement dur à entendre. Personne ne veut être dans un appel vidéo comme ça.
Au fond de lui, un reste de lueur. L'espoir de voir enfin un jour un monde meilleur.
Bon alors déjà, spéciale dédicace à tous ceux qui ont dépensé 1500 euros pour l'iPhone 11 en disant « Mais c'est énorme, putain, il y a la reconnaissance faciale. » Va falloir qu'ils innovent. Là, c'est reconnaissance du front, de la mèche, de la frange ou de l'implantation capillaire.
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et comment retrouver un goût de la vie qui pourrait remplacer le besoin?
Il y a un autre type de personnes que je ne supporte pas en ce moment. Vous allez les reconnaître. C'est les gens qui disent par message. Bisous. Mais bisous de loin. Non mais sérieux, vous avez une personnalité qui me dérange. Et j'arrive même pas à exprimer pourquoi. Je sais pas. C'est vraiment, c'est physique. Voilà, c'est les gens qui disent bisous de loin. J'ai envie de vous tousser dessus de près.
C'est vrai, ça, on l'a vu, hein,
c'est
le début du confinement.
Oui, vraiment. Oh, ça continue.
Vous vous souvenez du film Dumb and Dumber?
Oui.
Anissé et Axel arrivent.
Europe 1.
Alors qui est Dumber?
Vous vous répartissez les rôles comme vous voulez.
Je l'ai pas vu.
Ça fait partie. Axel, vous êtes désespérant. Ça fait partie, les amis, des privilèges des geeks. Ils reçoivent en avant-première tous les nouveaux gadgets et celui-ci est assez sympa puisqu'il est intégré à un nouveau smartphone et permet de voir à travers les vêtements. Alice Mbida a pu le tester pour nous.
Et ma femme non plus n'est pas au courant.
Non, mais ça s'est entendu, on dira rien.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Dans la profession, on le surnomme l'Albert Londres d'ébène. Alice Mbida, notre expert innovation, va une fois de plus se montrer à la hauteur de sa célèbre devise.
Je plante ma plume dans la plaie.
Oui, dans la plaie ou ailleurs, en fonction des opportunités que la vie ou Tinder lui offre. Aujourd'hui, Alice Mbida vous fait découvrir un joujou extra. Et bien, un jouet intégrant un téléphone intégrant un rayon X qui permet, oui, de regarder à travers les vêtements. Vous me l'avez évidemment apporté, que je puisse le tester.
Non, évidemment, je ne vous l'ai pas apporté, parce qu'il commence tout juste à être commercialisé, hein, il n'est pas encore arrivé en France. Enfin, vous savez que tous les téléphones se ressemblent aujourd'hui.
Ah, oui.
Donc tout le monde cherche la petite fonction qui va le faire sortir du lot.
Elle peut faire la différence, oui.
Eh bien, les premiers acheteurs du dernier OnePlus Pro, hein, qui a été lancé la semaine dernière, donc il commence à peine à être commercialisé, mais se sont rendus compte qu'il y avait une nouvelle fonction qui, dans l'application photo, une fonction qui est mentionnée nulle part, mais qui est naïvement baptisée le filtre photochrome. Donc ils ont essayé et il se trouve que cette fonction, justement, elle a cette fonction rayon X, on est capable de voir à travers les objets. Alors pas n'importe quel objet, hein, tous les objets qui sont en plastique noir, vous savez, tous les gadgets électroniques, donc les claviers, les souris, les télécommandes, tout ça, on passe son téléphone devant et on voit à travers. Si vous l'essayez par exemple sur votre plaque de cuisine, eh bien vous allez voir les vis, vous allez voir la bobine, vous allez voir toute l'électronique qui est en dessous.
Chacun, on est d'accord.
Chacun ses vis, hein, mais je connais peu de gens dont le plaisir secret est de mater ses plaques de cuisson.
Certains l'ont essayé sur des vêtements et il se trouve que ça fonctionne. Si on a un vêtement noir, un t-shirt noir un peu fin comme vous deux, eh bien sur Eva, on va voir les bretelles de sous-soutien, on va voir son soutien-gorge. Et vous, Mathieu, vous qui avez un petit t-shirt noir, eh bien on est capable de voir votre petit tatouage de coquin que vous avez en dessous, là, derrière.
Mon Dieu, mon I love maman, on peut le voir maintenant. Et là, attendez, ça marche sur les tissus noirs, c'est ça?
Ça marche sur les tissus noirs qui sont assez fins. Alors, ça marche pas partout, hein. Faut quand même.
Ça veut dire quoi? Vous voyez simplement, par exemple, une bretelle de soutien-gorge, vous voyez qu'il y a une forme ou on voit vraiment les gens.
Est-ce que vous voyez les nimbards ou pas?
Est-ce qu'on voit vraiment les gens nus?
Alors, je vous ai amené des images. On ne voit pas les gens nus, complètement nus. On voit ce qu'il y a en dessous de l'image. C'est un peu comme les images les images infrarouges.
Oui, d'accord.
Donc on voit. Eva s'inquiète.
Pardon. Non, je ne m'inquiète pas.
Eva s'inquiète. Non, on ne voit pas les détails. On ne voit pas les détails. C'est un peu une version un peu améliorée du phénomène. Vous voyez qu'on a tous expérimenté quand on fait une photo avec un flash. Et bien souvent, on a l'impression que les vêtements sont un peu plus transparents que d'habitude.
Ah, oui.
Donc on ne voit pas les gens nus, mais on voit un peu ce qu'il y a sous le vêtement. Et ça crée la polémique pour deux raisons. Parce que d'abord, c'est une fonction qui n'a pas été expliquée clairement par OnePlus.
Mais vous pensez que tout est calculé par le constructeur?
Je pense qu'ils ont été assez naïfs, hein, dans cette affaire. Et puis surtout, la deuxième raison, que ça réveille un fantasme. Il n'y a qu'à vous voir le fameux fantasme des lunettes qui déshabillent.
Bah
on a tous imaginé ces fameuses lunettes qui déshabillent. Vous vous souvenez peut-être de la polémique qu'il y a eu il y a quelques années avec les caméscopes Sony, qui avaient un mode infrarouge pour pouvoir voir la nuit. Sauf que les gens, quand on utilisait en plein soleil, ça permettait de voir les gens complètement nus. Et quand on les utilisait sur la plage, on a eu des clichés comme ça qui étaient un peu compromettants. Alors, il faut quand même l'avouer, on voit pas grand-chose, hein. Mais cette idée de pouvoir voir ce qu'il y a en dessous des vêtements, même si les gens ne sont pas totalement nus, c'est une idée qu'on n'aime pas trop. Et en ce moment, on ne peut pas aller sur les plages. Donc le fameux OnePlus qui est sorti la semaine dernière, on ne l'a pas encore testé sur des personnes sur la plage, mais on sait que la plage, le soleil accentue les infrarouges, donc ça permettra de voir mieux. Donc si certains clichés commencent à sortir utilisant ces fonctions, il est possible que OnePlus soit obligé de désactiver sa fameuse fonction, comme Sony a été obligé de retirer son caméscope infrarouge.
On voit quand même.
Calmez-vous, Axel Zanini est inquiet.
Oui. Mais oui, parce que je voudrais faire remarquer que les sujets d'Anissé sont de plus en plus coquins, alors que moi je m'évertue de parler de banque centrale, de Wall Street, d'actionnaires, pour maintenir un certain standing à cette émission.
C'est
pendant ce temps-là. Et voilà, et du coup, c'est encore lui qui va récolter les points.
Axel,
je sais comment tout ça va se terminer.
Mais c'est la rencontre des deux univers qui fait la force de cette émission. Axel, c'est justement le coquin.
Vous faites les sujets chiants.
Moi, je fais les sujets coquins. Voilà. Et donc, je perds.
Merci beaucoup, Anissé Mbida. Allez voir. Où est-ce qu'on peut voir ce que ça donne?
Sur Twitter, il y en a partout. On pourra vous donner des exemples.
OnePlus, c'est quoi le nom de ce téléphone?
OnePlus 8 Pro.
Voilà, ils peuvent nous l'envoyer pour qu'on le teste éventuellement. Merci, Anissé Mbida. Allez, tenez, passez-le moi que je scanne un peu, Eva.
Attendez deux minutes que je remette ma culotte.
Trop tard. Quand il s'agit de dégoter un bon programme télé, Eva Rock a les mêmes critères que Nathalie Chevance, notre correspondante à Marseille, quand elle choisit un mec sur Tinder.
Autant qu'il soit agréable, joli, drôle, humoristique.
Alors, très bien. Ces quatre critères sont remplis
c'est
ce
parfait.
Soir.
Ah oui.
À tout de suite.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Ce n'est pas une simple prime de fin de saison qui attend Sainte Eva Rock début juillet,
c'est
mais une véritable médaille du mérite en or massif. La moindre des choses pour une journaliste qui encaisse sans broncher, depuis 8 ans maintenant, des remarques d'un goût plus que douteux concernant sa supposée érotomanie. Si bien que la pauvre souffre désormais d'un triste délire de persécution. Dès que je dis une horreur, elle croit que c'est pour elle.
Parce que la sueur, c'est quand même plus facile à les récolter que le sperme.
Ça dépend pour qui, Farah.
Oh, Mathieu.
Mais comment avez-vous pu imaginer une seule seconde que moi, le gentleman helvète? Mais enfin, dites-nous plutôt ce qu'on regarde à la télé ce soir.
Ça va pas bien, non? Mais enfin. Bon, alors, évidemment, les meilleurs moments de la France à un incroyable talent, c'est sur M6 et c'est ce soir à 21h. On en parlait avec Marianne James tout à l'heure. Mais j'ai décidé de passer en mode romantisme aujourd'hui.
Ça me ressemble
tant. Oui, ça me ressemble tellement pour une soirée ciné gratuite et qui vous séduira, j'en suis certaine.
Oui, pourtant, d'après les sous-vêtements que j'ai vus grâce au téléphone d'Anissé, ce que vous avez prévu pour ce soir n'est pas romantique.
Oh, hein. Bah, c'est pas mal, non?
Oui, bon.
Alors, deux longs métrages qui célèbre l'amour, à commencer par celui-là.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien.
Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal?
Pourquoi pas?
Vous avez bien
vous voulez que je trouve le film, c'est ça?
Bah oui, évidemment.
Là, quand même, je peux trouver un homme et une femme.
Mais oui, un homme et une femme, 1966, Jean-Louis Trintignant face à Anouk Aimée pour le film de Claude Lelouch. À voir ou revoir sur France 5 à 20h50 avec la musique signée Francis Lay, avec Deauville sous la pluie en guise de décor et puis une histoire d'amour entre deux êtres, veufs, qui portent encore leur douleur et qui hésitent à s'investir de nouveau dans une relation sérieuse. Ils s'aiment, ils se séparent, ils se retrouvent. C'est magnifique. Pour la petite histoire, sachez d'ailleurs que Claude Lelouch avait choisi de tourner les extérieurs en couleur et les intérieurs en noir et blanc, mais pour des raisons budgétaires. Et puis il s'est dit, de toute façon, les gens qui vont aller voir le film, ils penseront que c'est un effet de style. Puis c'est pas faux. Il y a beaucoup qui ont pensé que c'est un effet de style. Mais non, c'était un effet. C'était
c'est
pour
génial,
des raisons
ça.
Budgétaires. Voilà. Un film d'une beauté absolue qui est servi évidemment par un couple d'acteurs magnifiques et qui a permis à Claude Lelouch de remporter la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1966. C'est à voir sur France 5 à 20h50. J'en profite pour vous dire qu'il y a beaucoup de chaînes qui font des programmations spéciales Cannes, puisque le festival n'a pas lieu, évidemment. Vous allez pouvoir revoir tous les grands films qui ont marqué le festival, à la fois sur France Télévisions, Arte et puis Canal+.
Et votre autre histoire d'amour, elle ressemble à quoi?
À une comédie romantique, mais alors comment on les aime? Avec son lot d'humour, de rencontres improbables, de rebondissements, c'est TF1 qui propose 20 ans d'écart. Un film porté encore par un couple, Virginie Efira et Pierre Niney en
c'est
l'occurrence.
Bien ça, hein.
C'était formidable. La première, elle a 40 ans, elle travaille dans la presse féminine, elle se sent un peu mise sur la touche. Une fille franche qui n'hésite pas à tancer ses collègues en conférence de rédaction.
Et puis moi, si on a besoin de me coller une étiquette de cougar ou de milf sur la tête parce que j'ai cette ride au coin des yeux, bah qu'on me la colle. Soyons le fantasme au-delà du fantasme. Parce que le fantasme, il est là, mais il bouge pas. Mais nous, on est vivantes, non? Alors, toutes démoclées sur YouPorn, d'accord. Mais vous avez intérêt à assurer.
Alors Alice, en fait, elle a trouvé une solution et elle va essayer de s'enticher pour de faux, hein, d'un jeune homme de 20 ans afin d'être l'exemple parfait, donc de ce qu'on appelle la MILF, la cougar. Elle va rencontrer Balthazar, c'est un jeune étudiant qui a bien du mal, lui, à comprendre comment il a pu séduire cette magnifique quadra. Le duo Efira-Niney fonctionne, mais à merveille. Alors précision au passage, parce qu'ils ont 20 ans d'écart dans le film, en fait, ils en ont 12 dans la vraie vie, hein, voilà. Mais bon, ça marche à l'écran. Et au casting également, un hilarant Charles Berling dans la peau du père de Balthazar. Alors 20 ans d'écart, c'est vraiment dans la lignée des comédies romantiques. Antique façon coup de foudre à Notting Hill, le genre de film qui fait du bien, qui nous laisse penser quand même que les contes de fées existent un peu. Voilà, juste un petit
on
peu.
On sent qu'il y a un appel
voilà.
du pied là.
C'est ça,
Eva.
Exactement. Voilà.
Un petit Pierre Niney.
Oui, évidemment.
Voilà,
et alors, si vous avez du temps, je vous conseille de regarder sur internet les moments de promotion du film qui sont assurés par Virginie Efira et Pierre Niney parce qu'ils vont continuer à jouer leur rôle et le font avec un humour décapant. Et puis, alors, définitivement, Virginie Efira, elle est parfaite dans ce genre de rôle et Pierre Niney, il est parfait.
Et le bienvenu à la maison. on l'aura compris. Axel.
TF1 oui, 21h05.
Petite question, parce que vous avez dit cougar et milf. Milf, ça veut dire quoi?
Alors, non mais...
Ah bah non, mais je veux comprendre.
Milf, en fait, c'est les... Cougar, c'est la femme un peu âgée qui va aller avec un petit jeune, d'accord?
Voilà, comment elle va s'en sortir?
C'est la... Non, je ne vais pas le dire en anglais, mais c'est la mère de famille, celle qui a déjà un enfant.
Mother, je sais pas quoi.
La maman qui est très sexy.
Voilà, oh, voilà, oui. voilà une traduction.
Oui,
effectivement, qui n'est pas littérale.
On sent qu'il pratique la MILF.
Mais bon, oh, c'est... Oh, vous réglerez vos contentieux en antenne, les amis.
Femme, vous, c'est un
problème. On enchaîne.
Ça n'a plus du tout, là.
Être avec nous en duplex relevait pour lui de l'exploit. Notre expert éco, le marquis de Tarlet, a connu, grâce aux contraintes du confinement, de folles aventures.
Il a ma relance. Est-ce qu'il a ma relance?
Ouais.
Ah putain. Ouais. Bon, super, j'ai eu de la chance. Hein. Merci. Hein.
De rien.
Que d'aventure! Aujourd'hui, il fait son retour en studio pour nous décrypter l'euphorie boursière aux États-Unis, assez incompréhensible vu l'état du pays. On retrouve Axel de Tarlet juste après Pauline Croze, Kim sur Europe 1.
Fasciné devant ma télé, le nord et le sud à moitié, partagé comme mon cœur, où tes missiles vont s'abîmer. J'alerte ONU, ONG, j'y mets toute mon énergie. Je rêve à des booms et à des bangs de dragons flamboyants. Ton yin et mon yang en délai, ta bile et mon sang mélangé. Dans une belle hécatombe. Bibimba pelou la
Kim, c'était Pauline Croze et c'était une nouveauté, Eva, comme vous l'avez finement noté.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Elle adore Pauline Croze et c'était important que la France le sache. Effectivement, vous avez bien fait de le préciser, Eva. 1929, 1973, 2008, 2020, à chaque crise, le modèle capitaliste nous montre à quel point il est performant. Notamment grâce à une formidable déconnexion des marchés financiers et de l'économie réelle. On en vit actuellement la caricature, près de 100 000 morts aux États-Unis, plus de 20% de chômage, un recul du PIB estimé à 30%. Et pendant ce temps-là, la bourse qui bondit de 30%. C'est vraiment bien fichu. Pour nous expliquer ce qui, de loin, pour des nuls en économie, ressemble à une aberration, notre expert éco, Axel de Tarlé, pas mécontent d'être de retour en studio parce qu'à la maison, gérer les gosses, la cuisine, tout en faisant sa chronique, c'était pas simple, comme on avait pu le constater mercredi dernier.
Ah tiens, épluche les patates.
Qu'est-ce que vous susurrez, Axel de Tarlé? Ça reste de la radio. Parlez fort.
Oh, c'est terrible, j'ai dit à ma fille, épluche les patates.
Et oui, c'était les joies du confinement. Alors, Axel.
Elle avait fait ou pas?
Ah bah non.
Elle
n'a
pas fait.
C'est moi qui ai épluché les patates.
Vous avez épluché les patates en faisant la chronique économique.
Ah bah
quoi,
non,
le dauphin
après,
d'or. Non, vous auriez pu le faire pendant. Axel, expliquez-nous ce qui se passe aux États-Unis. Le PIB plonge, on l'a dit, on va vers 100 000 morts et le chômage pourrait grimper jusqu'à 25% d'après les estimations. Mais la bourse, elle, s'en fout.
Exactement, la bourse américaine a rebondi de 26% depuis la mi-mars. Mais pareil pour la France, hein, plus 14%. Alors pourquoi? D'abord, il y a un premier phénomène qu'on appelle le phénomène FOMO. Alors FOMO, je vais vous expliquer ce que c'est, contrairement à MIF, je ne sais toujours pas ce que c'est. FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out. Ça veut dire, c'est la peur de rater quelque chose. C'est ce qui s'était passé en 2008-2009. Si vous voulez, quand la bourse baisse, fatalement, à un moment, elle remonte. Bah, si vous arrivez après la remontée, c'est trop tard.
Donc, on se précipite pour
On se précipite pour pas rater la remontée. Du coup, comme tout le monde se précipite, ça provoque la remontée. Voilà. Il y a la deuxième chose, il y a un deuxième phénomène qui explique cette remontée de la bourse. Eh bien, ce sont ces centaines de milliards que les banques centrales déversent pour soutenir l'économie, qui se retrouvent d'ailleurs en partie dans les livrets A et en épargne des Français. Vous savez qu'on a parlé d'une épargne forcée, puisque les Français n'ont pas pu dépenser. Et curieusement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, en avril, il y a eu 150 000 nouveaux petits porteurs, des jeunes, qui sont allés en bourse, qui se sont dit, tiens, la bourse s'est écroulée.
On y va.
Ouais, et c'est le moment d'y aller. Et puis, il y a un troisième phénomène, alors qui explique pourquoi c'est surtout Wall Street qui a rebondi deux fois plus vite que la France, c'est qu'aux États-Unis, vous avez maintenant GAFA. En fait, la bourse est maintenant GAFA. C'est Google, Amazon, Facebook et Microsoft. Ces cinq entreprises représentent, j'avais noté le chiffre, 25%, 22% de l'indice boursier américain. Ah oui. Si vous voulez, ces cinq entreprises, elles représentent quatre fois l'ensemble de notre CAC 40. Pourtant, notre CAC 40, c'est pas des PME, c'est L'Oréal, Sanofi, c'est du lourd, LVMH. Eh bien, ces cinq entreprises à L5 pèse 4 fois plus. Et elles ont été renforcées par cette crise. Vous savez que Netflix, un site internet qui diffuse des vidéos, vaut maintenant plus cher en bourse qu'ExxonMobil. Donc voilà, c'est trois phénomènes. La peur de manquer, l'argent qui coule à flot des banques centrales et le succès des GAFA expliquent la remontée de la bourse.
Mais est-ce que, d'après ce qu'on a vu dans les autres crises, est-ce que ça va perdurer ce mouvement haussier de la bourse ou au contraire, est-ce qu'il pourrait y avoir, comme avec le coronavirus, une deuxième vague? C'est-à-dire que ça pourrait retomber.
La bourse anticipe. Là, elle anticipe un scénario rose. Il est évident que s'il devait y avoir une deuxième vague, eh bien, il y aurait un coup de bambou sur les marchés et, à mon avis, une rechute. Ça sera peut-être l'occasion
d'une autre chronique.
Et question subsidiaire, si vous avez la réponse, Axel. Hein, je ne sais pas du tout pour
Je suis très
piéger.
Content de voir que ma chronique vous intéresse au moins autant que la chronique coquine d'Anissa.
On aime le sexe, mais on aime l'économie.
Vous disiez que les jeunes ont investi en bourse.
Oui.
Est-ce qu'on sait vers quel type d'entreprise ils ont acheté des actions ou pas du tout?
Alors en fait, il y a plusieurs façons d'aller en bourse. Soit vous achetez des actions directement parce que ça vous intéresse, vous achetez des entreprises. Mais en ce moment, il y a le gros truc qui est à la mode, c'est, vous savez, en assurance vie, on vous dit arrêtez de faire des fonds euros là. Les fonds euros, on prête aux États. Et comme les taux sont à zéro, ça ne rapporte plus rien, puisque les États s'en est à 0%. Ça veut dire que ceux qui ont prêté gagnent 0%. Donc on dit allez plutôt en assurance vie, en actions. Et là, ce sont des paniers de différentes actions françaises ou européennes.
Mais c'est des paniers qu'on vous propose, en fait.
Ouais, vous propose et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans.
Ah,
quoi. Ça s'appelle fonds eurodynamique, vous voyez, je ne sais pas quoi, des trucs dans ce genre.
Oui, oui, formule offensive, dynamique voilà. Plus, tout ça.
On voit qu'il y en a qui sont au courant.
Et du tout, c'est une référence au film Podium. J'ai pas d'action, moi.
En général, on ne vous dit pas trop que c'est de la bourse, parce que la bourse fait peur.
Oui, on n'a pas une obligation légale de vous dire que c'est de la bourse.
C'est dynamique, c'est vers les entreprises.
C'est très dynamique, vous pouvez tout perdre. Merci Axel. Anissé, une réaction à la chronique de votre rival? Oui, il l'a fait. Bravo.
Europe 1.
On va pas vous mentir, les amis, que les journalistes reviennent en studio, c'est bien. Mais si les invités pouvaient revenir aussi, ça serait mieux. Car parfois, leur bonne humeur communicative nous manque. Chaque jour, on se replonge dans ces merveilleux souvenirs. Le meilleur des invités à suivre.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Dans quelques jours maintenant, on l'espère, nous serons en mesure d'accueillir à nouveau des invités en studio. En attendant, avec Eva, chaque après-midi, on se replonge dans les archives de l'équipe est sauvage. Aujourd'hui, rencontre avec un journaliste passionnant qui expose sur France 5 où il présente ses politiques. Karim Rissouli était notre invité le 10 décembre dernier. De manière très élégante, il avait tenté de rendre hommage à un des journalistes présents autour de la table, Jean-Philippe Ballas, qui avait été pour lui, dans le temps, son mentor. Séquence émotion que je vais hélas salir, comme à mon habitude.
Si je devais faire un discours de remerciement un jour, qui sait, il y aurait Jean-Philippe Ballas dedans. Quand je suis arrivé à Europe 1, j'étais pas hyper bon. Eh ben, il m'a pris par la main.
J'espère que ça s'est arrêté là. Désolé Karim. Karim Rissouli était notre invité le 10 décembre dernier. Un ancien d'Europe 1 qui fait désormais les beaux jours de France 5. Chaque dimanche, il présente ses politiques. Une émission qui parle de politique différemment, avec toujours un pas de côté qui la rend passionnante. Bonjour Karim Rissouli.
Bonjour Mathieu.
Déjà, ça vous fait quoi de vous retrouver face à un micro bleu et blanc?
Ça fait 10 ans.
Et ça fait 10 ans.
Ouais, j'ai presque envie de pleurer.
Ah bah oui.
Et c'est vrai qu'il y avait des, il y avait quoi, il y avait
des siestes.
Il y avait des siestes, il y avait des repas arrosés. Ça marchait super bien, mais ça va revenir.
C'est en train de revenir, Karim. Présentateur de C'est Politique sur France 5. C'est Politique, si vous connaissez pas, c'est cette émission de France 5 chaque dimanche à 18h35 où on parle politique, ou en tout cas d'enjeux politiques, mais sans homme politique.
C'est original.
C'est votre martingale. Mais en fait, ça marche très fort et je pense que plein d'émissions vont vous imiter maintenant.
Je crois qu'ils ont un peu commencé à nous imiter. Il y a des interviews politiques le matin sans homme politique maintenant, ouais, sur certaines radios.
C'est vrai.
Et oui, ce qui est assez fou, c'est qu'on l'a mis en place l'année présidentielle, en 2016. Donc c'était un peu compliqué de dire on a une nouvelle émission avec des nouvelles têtes, vous ne connaissez pas. Et en plus, vous ne connaîtrez pas les invités non plus. C'est super. mais effectivement, ça marche parce que oui, le postulat, c'est que la politique appartient à tout le monde. Mais ici aussi, vous parlez de politique tous les jours aussi à votre manière. Donc
si. Non, vous confondez, vous écoutez notre radio. Mais ce que je veux dire, c'est que les hommes politiques, vous les trouveriez, à force de les fréquenter, trop rodés à l'exercice journalistique.
Oui, et puis ils étaient partout. Ils étaient partout. Il y avait 15-20 interviews politique par jour quand on a commencé l'émission.
Aujourd'hui, le succès est au rendez-vous en termes d'audience, mais est-ce qu'au début, ça a été difficile à imposer à la chaîne cette volonté de ne pas recevoir de politique?
Non, la chaîne était plutôt pour ça. Ça a été compliqué pour nous, en interne. Quand on commence à inviter des intellectuels qu'on veut en plus s'imposer la parité homme-femme, etc., etc., on se met des contraintes assez énormes, mais au bout du chemin, ça fonctionne.
800 000 téléspectateurs en moyenne pour ces politiques chaque dimanche sur France 5. Est-ce que vous imaginez déjà que le concept marcherait à ce point?
Pas du tout.
Vous aviez des objectifs d'audience, des
non,
trucs comme
quand
ça.
Quand on a récupéré la case, elle devait être à 380 000 environ.
Vous l'avez plus que doublé.
384. Bon, ok, je sais. Bon, elle devait être
le mec
ça.
Qui regarde pas les chiffres.
Pas du tout, jamais. Donc oui, non, on avait déjà l'objectif de faire aussi bien. On se disait que ça allait être compliqué, qu'on installait une nouvelle, voilà, encore une fois, une nouvelle marque avec une nouvelle façon de parler de politique. Non, je pensais jamais qu'on serait. On est quasiment tous les dimanches à plus d'un million entre 19h et 20h. Et je ne pensais pas qu'on en sera là, mais je pense qu'on va continuer à monter.
Avec donc des noms politiques, mais des personnes quand même qui ont un avis sur
oui,
notre société,
sûr,
sur la politique, comme Ariane Ascari, par exemple, dimanche.
Pas pour me dire que leur programme est le bon et que celui de l'autre en face n'est pas le bon. Alors, Ariane Ascari, elle est comédienne, elle vient, elle parle avec son cœur. Elle n'a pas fait une thèse de philo ou de socio, mais elle vient, elle nous parle de ce que c'est qu'être une femme et de ressentir la misogynie dans un corps de femme. On a parlé antisémitisme avec elle, on a parlé évidemment de la question sociale avec son dernier film. Et on reçoit aussi beaucoup de sociologues, de philosophes, d'historiens. Et c'est assez jouissif, justement, d'avoir quelqu'un en face de soi et de se dire, je suis pas là pour le coincer. Je suis là pour qu'on soit tous collectivement plus intelligents à la fin de l'émission qu'au début.
Alors Karim, aujourd'hui, vous êtes un journaliste reconnu, mais pourtant, votre destin aurait pu être tout autre. Les pelouses angevines portent encore la trace de vos pierres crampons. Vous avez commencé par la section sport-études au collège. Vous auriez pu devenir footballeur ou journaliste sportif au dernier mondial. Vous auriez pu vous égosiller.
J'aime Mbappé, tu aimes Mbappé, il aime Mbappé, nous aime Mbappé, il aime Mbappé.
Pas de de regret de ce côté-là d'avoir choisi plutôt le journalisme politique dans un premier temps plutôt que le journalisme sportif.
Je pense surtout
passion.
Que le foot ne m'a pas choisi lui. C'est-à-dire que j'aurais adoré être footballeur professionnel, mais j'étais pas suffisamment bon, je pense. Mais c'est vrai, Mathieu Charrier me regarde.
Il faudrait rétablir une vérité oui. sur cette histoire de foot de carrière. Alors, football.
Mathieu Charrier qui connaît bien Karine Rissouli.
Il veut vraiment que je vote pour lui.
Il y a eu quelques mois en sport-études qui ont été un échec.
Non, il y a eu quelques années en sport-études qui ont pas été un échec, mais il y a eu une sorte de légende urbaine. Que j'avais fait le centre de formation du SCO d'Angers et que j'étais à deux doigts de devenir professionnel, ce qui n'est pas vrai.
Europe 1. Il fait partie de ces zigomars à cause desquels on va se taper un reconfinement. Samedi soir, Olivier Pouls, notre expert gastronomique, passait à 180 km/h sur un dodane dans une zone 30 quand une patrouille de police l'a interpellé. En plus de l'excès de vitesse, il s'est également fait rappeler à l'ordre pour port de masque non réglementaire. Masque, il faut le dire, qu'il avait fabriqué lui-même, comme il expliqua aux forces de l'ordre.
Bah, c'était quand même plus sympa de porter un masque en jambon.
Délice in extremis, votre recette de dernière minute arrive juste après Eagle Eye Cherry, Save Tonight sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Gone and close the curtains, cause all we need is candlelight, you and me. And a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.
Save Tonight, c'était Eagle Eye Cherry dont on a parlé uniquement parce qu'il avait une sœur, me signalait Anissa Mbida.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bah ça, Néné Cherry, je peux vous dire qu'il ne l'a pas oublié, Anissa.
Il ne faut pas vous parler pendant les morceaux, vous en restez après, vous dites
son
tout.
Nom, le nom de Néné Cherry était enthousiasmant pour Anissa, c'est ça qui l'avait intéressé au
très
départ.
Très compliqué ce que vous dites. Néné Cherry, moi je ne sais absolument pas qui c'est.
C'est vrai,
non,
enfin,
Axel,
vous savez
mais vous parlez plein de choses bizarres.
C'est votre époque, Néné Chéri. C'est pile dans les années 90.
Mais c'est quoi,
une chanteuse?
Qu'est-ce qu'elle a fait?
Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben on vous fera écouter. On vous fera écouter la prochaine fois.
Ça n'a pas l'air d'être
évident. De nombreux tubes.
C'était quoi, Miss Wild?
C'était à la même époque. Exactement.
Dans les années 80.
Ça y est, c'est parti.
On croit souvent, les amis, qu'ils se sont rencontrés ici, à Europe 1. Il n'en est rien. Car bien des années avant de la rejoindre de temps en temps pour une pause gourmande et bien méritée à l'hôtel Ibis de la Porte de Vanves, Olivier Pouls connaissait déjà Eva Rock. Entre eux, on peut même parler de coup de foudre. C'était au Salon international du pâté en croûte 1992. Olivier était dans le jury, Eva en compétition pour le titre de Miss Pâté 92.
Quelle horreur!
Rien qu'à la lecture de son pédigré, il a failli avoir un orgasme.
Deuxième dauphine Miss Jambon Persillé 63. Elle est coquine, mais bon, elle est un peu servie, comme on dit donc.
Bonjour Olivier Pouls.
Oh,
quelle belle rencontre.
Bonjour ma seconde dauphine, bonjour les amis.
Olivier, cette semaine, la thématique est simple, dessert. Chaque jour, une idée de dessert pour bluffer notre partenaire. Ce soir.
Et qu'on peut emmener au bureau surtout.
Oui, parce que je me souviens que vendredi, c'est vous, mon cher Mathieu, qui m'avez réclamé à corps et à cri des desserts. Donc évidemment, en bon petit soldat, qu'est-ce que je fais? Je m'exécute évidemment.
Comme j'ai pris que 5 kilos pendant le confinement, je me suis dit que c'était la semaine idéale pour entamer une ligne droite des desserts. Quoi.
Et alors aujourd'hui, je vous propose un dessert non seulement délicieux, mais je pense extrêmement original, qui devrait en épater plus d'un, mes amis. Alors écoutez bien, je vais vous proposer de faire des petits pots de crème de petits pois verveine. Le petit pois utilisé non pas comme un légume, mais comme, vous savez, c'est très sucré quand on goûte les jeunes petits pois, presque comme un fruit de dessert.
Un petit pois de dessert.
Oui, exactement. Alors écoutez bien ce qu'il vous faut. Il vous faut 100 grammes de petits pois, mais alors de petits pois écossais. C'est-à-dire, si vous les achetez avec l'Écosse, il faut prendre à peu près 300 grammes.
Et s'ils sont irlandais,
c'est grave ? Oh non, moi, c'est pas mal,
c'est celle-ci,
Eva.
Combien vous mettez ? Celle-ci, vous mettez combien ?
Mais le pire, c'est que ça me fait.
Peut-être vous mettez combien ? Ah, ça vous fait. Craqué. Vous vouliez me mettre une mauvaise note, mais c'était très bon. C'était très très bon. C'était du très haut niveau humoristique, tout simplement. La France a un incroyable talent. Bon, pas moi.
C'est ça, ouais.
Alors Olivier, les petits pois écossais, très bien.
Alors, les petits pois écossais, donc, vous allez les cuire très rapidement dans un petit volume d'eau et vous allez les réduire en purée. Vous allez prendre un œuf ainsi que deux jaunes. Vous allez y rajouter 50 grammes de sucre et vous allez bien mélanger le tout. À côté de ça, vous allez dans une casserole faire bouillir 15 centilitres de crème et 10 centilitres de lait et faire infuser pendant une ou deux minutes un petit sachet de tisane de verveine, ce qui va donner un petit goût très sympathique à notre préparation. Donc vous allez enlever ensuite le sachet et vous allez verser cette préparation encore bien chaude sur les œufs et le sucre en remuant bien pour éviter que les œufs ne cuisent et ne coagulent immédiatement. Vous rajoutez votre crème de petits pois, vous mélangez tout ça pour avoir un mélange bien onctueux. Et vous les répartissez dans 4 petits ramequins, des ramequins un peu hauts que vous pourrez ensuite filmer pour les emporter au travail. Et vous les mettez à cuire dans un four au bain-marie, donc dans un plat avec de l'eau qui arrive à peu près à 2/3 des petits pots, pendant 40 minutes à 150 degrés. Ensuite, on les retire, on les met au frigo pendant au moins 3 heures pour qu'ils refroidissent et qu'ils prennent. Et vous avez des petits pots, saveur petits pois, ben comme quoi, avec cette petite touche de verveine, c'est légèrement sucré mais pas trop, c'est un dessert vraiment bluffant, en plus c'est beau comme tout, c'est vert, on dirait de la pistache, mais ça n'en est pas. Et ben je peux vous garantir qu'avec ça, demain au boulot, vous faites carton plein et vous faites des nouveaux amis.
Mais racontez-nous, Olivier, la genèse de cette recette, parce que franchement, ça il faut y penser. Comment déjà penser à des petits pois en dessert, c'est fort, associé avec la verveine, comment ça vous est venu? Est-ce que vous n'auriez pas piqué cette recette tout bonnement à une de vos amies chef étoilé, par exemple?
Non, alors pas du tout. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas mangé. Je vais tout vous dire, comme ça vous connaîtrez ma vie. J'ai acheté des petits pois et c'est vrai qu'en les mangeant, moi, quand je les écosse, j'en mange et c'est vrai que ça a ce côté sucré et je voulais absolument faire un dessert aux petits pois. Donc j'ai cherché des idées, pourquoi pas une tarte, pourquoi pas... Alors je sais qu'on peut en faire, par exemple, une crème glacée, ça marche aussi. C'est assez surprenant, ça marche bien. Et puis, comme il n'y a pas très longtemps, j'ai fait des petits pots de crème à la vanille parce que j'adore ça, je me suis dit, tiens, je vais associer les deux. Et puis, petit pois menthe, ça marche, c'est bien connu. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah, pourquoi pas de la verveine.
Eh bien, je dis bravo, Olivier Pousse. Nous testerons cette nouvelle recette.
En fait,
et non,
si
ça se trouve, c'est dégueulasse, on est d'accord. Mais il nous invite à tester. En fait, c'est nous, on est les cobayes d'Olivier Pousse. On va tester, puis ensuite, les gens lui diront c'était bon, c'était pas bon. Lui, évidemment, il ne prépare pas ça. Hein. Lui, il a commandé Fauchon. Merci, Olivier Pousse, qu'on retrouve dans la table des bons vivants tous les samedis et tous les jours chez nous, évidemment.
Europe 1.
Ils étaient quasiment tous de retour en studio pour la première fois depuis deux mois. Nos journalistes étaient si heureux de se retrouver qu'ils vont certainement aller boire un coup après l'émission.
Et on lui pèlera oui, Axel, oui. Comme oui. Au
oui. Oui, messieurs, c'est pas fini encore tout à fait. Non, Alice, messieurs, il reste le vote, ne l'oublions pas. À tout de suite pour la grande finale.
Avec ce truc.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Ils étaient si heureux de se retrouver, de se revoir pour de bon, en chair et en os aujourd'hui dans le studio Coluche, que nos journalistes n'ont certainement pas le cœur à se tirer la bourre. Je suis sûr, par exemple, que si je demandais à Axel comment il s'était voir Anissé terminer cette émission, vous me diriez...
Sado et Mazo, torse nu, dominateur, tenu en laisse par Geoffroy de Bézieux du MEDEF.
Ah non, ils sont toujours aussi remontés les uns contre les autres. Ouais. Quelque part, tant mieux, c'est l'heure du kit ou double. Ils ont chacun 10 secondes pour plaider leur dossier. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous aujourd'hui?
Parce que grâce à ma chronique, maintenant vous savez combien d'oiseaux un chat chasse chaque année. Et ça, c'est quand même une super info à caser dans un Skype et apéro ou à la machine à café.
20 000, j'ai bien retenu. C'est 20 000, hein, le chiffre.
C'est 5 à 10 oiseaux.
5 à 10, voilà, 5 à 10, c'est ça. C'était ça que je voulais dire, 5 à 10. Jean-Luc Boujon, pourquoi voter pour vous et votre grosse membrane?
Si vous voulez de l'espoir, si vous voulez croire dans le monde de demain, un monde plus sûr, sans Covid-19, votez effectivement pour ma membrane virucide et particules d'argent.
La membrane virucide made in Isère. Anissé Mbida, pourquoi voter pour vous et votre téléphone coquin?
Parce que je pense que depuis cette chronique, vous allez faire attention à ce que vous portez, notamment quand c'est noir et que c'est un petit peu fin, ou que peut-être vous allez vous précipiter pour aller l'acheter, pour filmer
pour
d'autres
voir,
personnes.
Effectivement, moi j'ai envie de voir ce qu'il y a en dessous de votre chemisier,
là,
Eva. C'est Axel de Tarlé. Vous avez misé sur un sujet sérieux. Pourquoi voter pour vous?
Eh ben, je vais vous dire, parce que Anissé et moi, on a fait l'effort de venir en studio, alors que Jean-Luc Boujon et Anne Le Gall, ils font...
Mais Jean-Luc Boujon, c'est le correspondant d'Europe 1 à Lyon.
Mais enfin, ils font la chronique depuis leur salle de bain, ce qui montre un manque de respect à l'égard de cette émission.
Il n'y a pas de place.
Je vais venir Anissé jusqu'à Paris. On va s'expliquer, Axel.
C'était votre seul argument, Axel.
Oui, mais il est
très
assez
bien.
Puissant. Moi, je respecte cette émission et l'auditeur.
C'est douché, chez nous. Monsieur, voilà.
Ah oui, nous aussi.
Heureusement, je vous dis merci.
Nous aussi, on est des médecins de
bon. Alors attendez, après tous ces arguments, il va falloir que je vote pour quelqu'un. Ça va pas être simple. Eh bien, aujourd'hui, je vote et finalement, sans hésiter, quoique toutes les chroniques étaient bien, mais je vais voter pour Jean-Luc Boujon parce qu'un tissu virucide, par les temps qui courent, c'est quand même, ouais. Et surtout du Made in France, c'est une très bonne nouvelle. Un point pour Jean-Luc. Eva Rock.
Eh bien, moi aussi, pour Jean-Luc Boujon.
Oh, Jean-Luc.
Ouais. J'ai beaucoup hésité avec Axel. Je dois le dire.
C'est vrai. Pas de bol pour Axel, mais... parce qu'aujourd'hui j'ai failli voter pour vous. Pour une fois.
Et prochaine fois, je resterai sous la couette, moi.
De toute façon, c'est trop difficile. Moi, j'aime pas ce jeu.
Vous n'aimez pas le principe de la compétition.
Non,
c'est dommage.
Ça,
vous êtes dans une émission qui est une compétition.
Ah, bah oui, je sais, mais j'aime pas voter. Non, j'aime pas voter.
Bien, c'est bien de réaliser. Mimé. Vous êtes incroyable. Romain Causer, notre réalisateur, lui, il adore la compétition, il n'a rien à foutre.
Ouais.
Pour qui vous votez, Romain?
Mathieu, aujourd'hui, je vais voter pour Jean-Luc Boujon.
Et voilà!
Le triplé pour Jean-Luc Boujon. Que disent nos auditeurs, Eva?
Ils ont voté pour la membrane.
Ils ont voté pour la membrane de Jean-Luc qui réalise le grand chelem.
Grand
175e journée de l'équipe sauvage remportée haut la main par Jean-Luc Boujon.
Je savais que cette membrane me rendrait service un jour.
Et... C'est sur ces mots empreints de poésie que nous terminons cette émission. Je remercie mes confinés du jour, Eva Rock, Anne Le Gall, Jean-Luc Boujon, Axel de Tarlé, Anissé Mbida et Olivier Pouls, Romain Causer et Christophe Pierrot en régie, mes télétravailleurs de l'ombre, Philippe Amardet, Claire Dutronc, Oriane Alévi et Sébastien Bordenave. L'équipe sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.